Un grand bonjour à vous tous, à chacun, de la part du Père Francesco. Et oui, vous tout à l'heure, j'ai été lui dire un petit bonjour. Le médecin, ce matin, a été très encourageant. Je n'ai pas vu le médecin, mais c'est lui qui m'a dit. Le médecin lui dit, ça ira très vite. Ça va bien. Ça remonte. C'est pas étonnant qu'il ait été comme ça. Il m'a dit, les 10 derniers jours, il n'a pas dormi une seconde. Alors, on en est tous là. Quand on ne dort pas, on avertit tout de suite le supérieur. Je sais bien que lui était supérieur. Là. Mais alors, quand on passe une nuit blanche, il ne faut pas passer deux nuits blanches. Parce que le sommeil, je l'ai dit, ça fait partie de la personne. Surveiller son sommeil. Non, il faut continuer de prier pour lui. Et je crois que la Sainte Vierge nous le rendra vite. Heureusement. Alors, on m'a dit de dire un mot sur la Pologne. J'ai pas grand-chose à dire, hein, parce que il y a une chose, c'est que l'édition française, moi j'avais l'édition française. Alors, la sœur, quand elle a vu, elle dit, oh, mauvais. Alors, il y a l'édition qui sort de chez elle et donc qui est parfaite. C'était le petit journal parce que ça a été revu, ça a été fait avec beaucoup, beaucoup de soin. La traduction, c'est la traduction, c'est pas le journal. Tandis que la traduction est mauvaise de ce qui était ordinairement avant. De ce qu'on avait, tandis qu'ici, alors j'ai eu l'avantage de recevoir un livre pour rien. Puisque la traduction de l'autre est mauvaise. Il y avait deux choses. Il y avait le congrès. Alors, les congrès, c'est jamais drôle. Hein. Et puis, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas précisé ce qu'on attendait. On a simplement dit ce que je viens de la vie religieuse. Et puis, c'est tout. Alors, c'est tout ce qu'on veut, la vie religieuse. Hein. Est-ce qu'il faut parler au point de vue théologique de la vie religieuse ? C'est ce que j'ai fait. Et au fond, c'était une réunion. J'ai cru comprendre ça. C'était en polonais et en anglais. Je n'ai suivi que, heureusement, j'avais quelqu'un qui me traduisait pour moi en français, mais c'est jamais la même chose, une traduction. J'ai eu l'impression que le congrès, c'était pour faire comme un regard ce qu'est le point de vue chrétien, catholique, orthodoxe, protestant. Donc très œcuménique. Alors vous voyez, montrer que la vie religieuse, c'est la maternité de la Très Sainte Vierge qui continue dans l'Église, c'était pas tout à fait œcuménique. Alors, ça n'avait pas d'importance. On peut... Ils ont quand même écouté. Et c'était au fond très un état actuel. C'était pas pas du tout prophétique, pas du tout, je ne sais pas, une orientation. Il n'y avait pas de finalité. Ça n'avait pas... Alors on avait des conférences successives, il y avait beaucoup de protestants. Il y avait... En français, il y avait pas mal, quand même quelques-uns qui étaient là. Le père jésuite...
Laurent Fabre.
Oui, c'est ça. Il était là. Il était là. Il est venu pour sa conférence et puis il est parti. J'ai fait un acte très méritoire. Je suis resté un petit... Pas tout, sauf le dimanche. Parce que le dimanche, c'était la fin. Alors, je me suis dit, la conclusion. Donc, je ne sais pas la conclusion. Mais ce que je sais, c'est que ça a été après, dans un journal qui était tenu par les... Au moins, il y a eu une conférence qui a parlé sur le Christ. C'est le père Philippe. Et là, à la fois, c'est une petite critique que les autres s'étaient restés à une... Vous voyez ? Mais c'était le but, je crois, faire le point. Alors, vous comprenez, faire le point sur l'Europe, où en est la vie religieuse ? Ils m'avaient dit simplement la vie religieuse. Moi, on ne fait jamais le point sur la vie religieuse, puisqu'on est toujours en espérance de la vision béatifique. Alors, le point en vision de la vision béatifique, c'est pas très commode. Alors, j'ai été au moins eux, nos frères slaves, hein, nos frères. Oui, ils sont tout proches de nous, mais ils ne sont pas romains. Et dès qu'on dépasse du côté de la Pologne, ils sont très nombreux. Ils sont slaves. Les slaves sont orthodoxes. Et alors, il y avait beaucoup d'orthodoxes, du moins quelques orthodoxes étaient là. Il y avait des protestants. Assez nombreux. C'était très œcuménique. Alors, on ne m'avait pas dit du tout que c'était très œcuménique. J'avais envoyé ma conférence un mois avant pour demander si c'était bien. Ils n'ont rien dit. Alors, c'était peut-être très bien du fait de mettre un accent sur quelque chose, il me semble. Très important, mais on ne sentait pas du tout le danger dans lequel il se trouve actuellement l'Europe. Mais ils vont faire partie de l'Europe, mais le danger, ils sont très proches, au point de vue théologique, de l'Allemagne, et ils ne voient pas que cette théologie allemande actuelle ne peut pas résister. On est devant une espèce de grande montée laïque. Si on n'est pas fondamentalement chrétien et catholique, on ne résistera pas. Et moi... Je crois qu'il y a un très grand danger actuellement pour l'Europe. Parce que c'est très... très bien l'Europe au point de vue économique. Peut-être que c'était nécessaire au point de vue économique. Mais quand on voit l'attitude française de ne pas vouloir faire allusion au point de vue religieux pour l'Europe, c'est très dangereux. Parce que ne pas faire allusion au point de vue Europe, c'est considérer que l'Europe doit être représentante d'un athéisme. Et c'est là que je me trompe peut-être, hein, parce que je vous dis, c'est pas commode de suivre, mais vraiment, quand on n'écoute qu'une traduction, il y a beaucoup de choses. Alors, une générosité très grande, non, pas là. Alors, il y avait cette réunion-là, et puis l'autre partie, j'étais à Varsovie, invité par le cardinal. Mais le cardinal de Varsovie n'était pas là, n'était pas à cette réunion. Il y avait les autres cardinaux, mais pas lui. Alors, lui, je le connais, et je l'aime beaucoup. Parce qu'il est très fidèle. Je l'ai connu à Fribourg comme étudiant. Et c'est quelqu'un qui a accroché très fort. Et le Saint-Père a voulu que ce soit lui qui le remplace. Donc ça montre toute la confiance du Saint-Père vis-à-vis de lui. Il a fait ses études au séminaire avec le Saint-Père. Et c'est quelqu'un qui a une dimension spirituelle très belle, très grande. Puis alors, j'ai été aussi chez le couvent des Sœurs de la Miséricorde. Donc, un des couvents de Sœur Faustine, un des couvents, c'est pas le seul puisqu'elle a circulé dans presque tous les couvents de la congrégation. Alors, j'ai vu sa petite cellule qui est transformée en petite chapelle actuellement. J'ai vu deux sœurs qui ont vécu à côté d'elle. L'une avait mon âge, était même un peu plus vieille que moi, de 3 mois. Et l'autre aussi. Alors, ce qui est très, très amusant, très curieux. Elle a dit oui, elle était très simple, très simple. On sentait quelqu'un qui était vraiment tout donné au bon Dieu. Mais on n'aurait jamais cru qu'elle était sainte. Elle était très cachée, si vous voulez. Et c'est vrai, elle était très conduite par le Saint-Esprit, très conduite par Jésus. On le voit dans son journal qu'elle a écrit parce qu'on lui a demandé. Elle avait ça par obéissance, il ne faut pas l'oublier. Obéissance religieuse, comme la petite Thérèse. C'est très curieux de voir ces saintes que le Saint-Père aime beaucoup. Notre petite Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, elle, notre sainte, et puis celle qu'on n'a pas encore canonisée, mais que le Saint-Père voulait canoniser par sa miséricorde vis-à-vis des pauvres. De voir ce type de sainteté aujourd'hui. Et peut pas comparer la sainteté. Chaque saint est unique, c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose de très net quand on regarde les saints du Moyen-Âge, saint Thomas, saint Bonaventure, le bienheureux Tom Scott. Oui, je le mets parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sa théologie, même si on n'est pas entièrement d'accord. On voit quelqu'un. Ce sont des théologiens. Ils sont saints dans leur théologie. Et quand on regarde nos saints aujourd'hui, ces petites saintes, les petites amies de la Sainte Vierge, c'est vraiment les petites amies de la Sainte Vierge et de Jésus et des saintes de petitesse, de pauvreté spirituelle, très nette. Ça indique quelque chose. Et ça indique quelque chose de très grand, je crois. Au Moyen-Âge, la sainteté se reflétait dans l'intelligence, dans la beauté des cathédrales, dans la sculpture, dans la peinture, c'est le rayonnement. C'est Jésus qui était suivi de 1000 personne, mille hommes, 2000 femmes, 3000 enfants, et qui multipliait les pains. C'est quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, quand on essaie de voir, on voit une corruption, parce qu'il faut bien appeler les choses par là, non ? Une certaine corruption de l'Évangile. Une diminution terrible de la théologie. Les orthodoxes, c'est rare qu'ils sortent quelque chose de beau et de grand. Ils le savent, du reste. Et les protestants, c'est très à côté. On vit un christianisme dans la pauvreté, dans la petitesse et la pauvreté. Je crois que c'est très visible, ça. Mais si en Pologne, il y a encore un peuple qui croit, qui bénit Dieu, qui bénit la Sainte Vierge, et ce qu'il y a de très touchant dans Sœur Faustine, c'est vrai, je l'ai lu en grosse partie dans le livre mauvais, mais c'est mauvais parce que c'est pas exactement ce qu'elle dit, mais l'esprit est quand même dedans. C'est quelque chose d'extraordinaire, Sainte Faustine. Je comprends très bien combien à Rome, quand on a posé Sœur Faustine pour la canonisation, on a écarté. En disant, mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur ou est-ce que c'est une espèce d'imagination très fertile, une piété? Et parce que c'est encore beaucoup plus étonnant que la petite sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un roman, hein, un roman de l'Esprit Saint. C'est Dieu tout le temps là. Jésus est tout le temps là. Alors, ça signifie quelque chose pour notre monde d'aujourd'hui, de voir que les saints, c'est la miséricorde de Dieu. Leur pauvreté, leur petitesse. La culture est très dépassée. Elle est complètement dépassée dans Thérèse, l'enfant Jésus, Sœur Faustine et la mère Thérèse de Calcutta. C'est complètement dépassé. On est en face d'un évangile de pauvreté. On est en face d'un amour vis-à-vis de Marie extraordinaire, une confiance en la miséricorde de Dieu qui dépasse toutes les bornes. Et ça donne beaucoup à réfléchir. Mais on a l'impression que la théologie, elle s'est durcie et asséchée. La théologie telle qu'elle est enseignée ordinairement par saint Thomas. On a asséché saint Thomas. On ne le connaît pas. Alors, il faut connaître saint Thomas par ses commentaires de l'Évangile et de l'Écriture. On a l'impression que l'intelligence s'est développée d'une façon extraordinaire du côté science. On va raconter le passage à Genève d'un dialogue avec notre frère Pascal et ce savant, un des plus grands savants pour les questions biologie d'aujourd'hui. On voit très bien combien la science a fait des progrès étonnants, combien les mathématiques ont fait des progrès étonnants. Mais la sagesse, on ne sait plus ce que c'est. Vous voyez, quand vous regardez depuis Thomas d'Aquin, on a l'impression que là, il y a eu un sommet de sagesse. Les trois sagesses de Thomas d'Aquin montrent bien ce souci de Thomas d'Aquin de demeurer dans une vision de sagesse. Et combien, dès le XIVe siècle, Occam, dès le XIVe siècle, de plus en plus, la sagesse est rejetée. Même les ecclésiastiques ne savent plus ce que c'est que la sagesse. La théologie ne sait plus ce que c'est que la sagesse. Les thèses de théologie sont devenues des thèses historiques. Qu'est-ce qu'un tel a dit sur, mais pas directement, la parole de Dieu, ce que l'Église elle-même dit. Il y a comme une espèce de culte de la science. La science mathématique a remplacé la métaphysique. Et la science biologique a fait des progrès énormes, extraordinaires. penser, la philosophie du vivant, il y a une régression par rapport à la sagesse et une augmentation énorme de la science depuis le 14e siècle. De façon très étonnante, je crois. Et c'est facile de voir que la sagesse était possible quand on a découvert les deux registres de notre intelligence humaine, le registre scientifique, le registre sagesse. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, encore, vit de ces deux registres ? On a l'air de ne plus savoir du tout ce que c'est que la sagesse. La science, oui. Mais la sagesse, elle est comme voilée. Elle disparaît. Et quand on fait le pèlerinage à Fatima, on fait le... Pour Sœur Faustine, je veux dire, c'est très net. On voit que cette petite sainte, pour la Pologne, pour l'Église, parce que sa mère y tient, elle a un sens très aigu de la miséricorde. Et il y a eu en elle une lutte constante entre ce que Dieu lui faisait comprendre intérieurement. Dieu faisait comprendre la puissance de sa miséricorde. Et en même temps, elle faisait des vœux pour une vie religieuse très classique. Alors, elle était tiraillée, sortir pour faire un ordre consacré à la miséricorde et répondre au désir de Dieu, ou rester fidèle à ses vœux. Et ça a été son martyr intérieur, ça. Parce que ses confesseurs, parce qu'il y en avait plusieurs, ses directeurs de conscience voulaient qu'elle reste fidèle à ses vœux, et elle sentait cet appel impératif de Dieu. Alors ça, c'est très beau. C'est très beau de voir ce combat et de voir la fidélité avec laquelle elle voulait répondre à ce que Dieu demandait et rester fidèle à ses vœux. C'est sûr qu'on vit là quelque chose de très beau. Quand on lit cette vie et qu'on regarde l'état habituel de la théologie, il y a une espèce de décalage. Alors, vous voyez, extraordinairement gentil. Je ne les connaissais pas, elles ne me connaissaient pas. mais il y avait des personnes, des jeunes femmes, qui ont traduit pas mal de choses en polonais, tout ça. À ce point de vue-là, elles connaissaient. Et on voit combien il est utile d'avoir une théologie spirituelle, mystique. Combien c'est indispensable pour pouvoir parler encore à ces religieuses prises d'une façon très forte par la miséricorde. Et combien le Saint-Père lui-même, parce que le Saint-Père a travaillé pendant 10 ans avant d'avoir des fonctions importantes, il a travaillé pendant 10 ans sur le petit journal de Sœur Faustine. Et il travaillait avec des religieuses de la miséricorde. Et le Saint-Père avait tout de suite découvert qu'il y avait là quelque chose de très important pour nous, pour l'Église. Et c'est pour ça que dès qu'il est devenu pape, il avait toujours le souci, il l'a pas fait tout de suite, hein, ceci de reprendre la cause de Sœur Faustine. Proclamer pour l'Église universelle. On continue le sérieux.
Alors, on revient au cours sur la théologie de la grâce chrétienne. Il y avait 2 ou 3 petites questions. En lien avec le cours qu'on a eu sur le Christ, si on pose 2 essais dans le Christ, nous ne pouvons plus toucher le mystère de la grâce chrétienne en tant qu'elle nous rend enfants de Dieu, c'est-à-dire participants à la nature divine. La grâce chrétienne nous est donnée par l'humanité sainte du Christ, unie hypostatiquement au Christ, et il y a un lien entre la grâce d'union et la grâce habituelle dans le Christ. Est-ce qu'on peut dire cela ?
Dans le Christ.
Oui, si on met 2 essais dans le Christ, oui. Est-ce qu'on peut encore parler de la grâce chrétienne ?
Ah oui, ça sent en opposition. Au fond, le livre de notre frère, il a fait une thèse. C'est initialement, du reste, c'est pas le titre. Hein. Mais on a obligé de mettre ce titre-là. C'est de montrer que saint Thomas n'a jamais employé le mot « grâce chrétienne ». Mais c'est possible, ça ne me gêne pas beaucoup, parce que saint Thomas, au point de vue théologique, est resté à préciser les principes propres de la théologie, l'aspect scientifique. C'est net, il le dit du reste, c'est pour les débutants. La somme théologique, c'est pour les débutants. Pour les débutants du Moyen-Âge. Hein? Et pour les débutants par rapport à saint Thomas. Donc, ce que saint Thomas essaie de faire, c'est les principes propres de la grâce. Or, le principe propre de la grâce, c'est Dieu. C'est la très sainte Trinité. C'est Dieu Père. Jésus, comme Christ, n'est pas principe propre de la grâce. Donc, au point de vue de théologie scientifique, saint Thomas a parfaitement raison de parler de la grâce, sans dire grâce chrétienne. le point de vue chrétien n'ajoute pas un principe nouveau. C'est un mode. C'est qu'un mode. Quand nous essayons de comprendre la grâce, nous essayons de comprendre ce qu'est la grâce, la ratio gratiae, participation formelle à la nature divine. Et la grâce sera toujours participation formelle à la nature divine. Donc, scientifiquement, je comprends très bien comment saint Thomas ne parle pas de grâce chrétienne. C'est la grâce. Mais dans un langage mystique, on regarde la finalité. Or, la finalité est différente quand on regarde la justice originelle et la justice chrétienne. L'originalité se trouve dans le mystère lui-même de la vision de Dieu. Nous voyons Dieu par Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus soit le métaxu, non. Par, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous engendre. Et la grâce chrétienne est comme la grâce de justice originelle, voire Dieu. Mais il y a un mode différent. Or, je crois que c'est au point de vue analogique que je dis ça. Si je ne comprends pas le point de vue analogique, je reviens à la connaissance générique, genre et différence spécifique. Or, la grâce n'est pas un genre. La grâce ne peut être connue que d'une manière analogique. La grâce ne peut pas être, ne peut pas se ramener au genre et à la différence spécifique. Si je ramenais la grâce au genre et à la différence spécifique, il est bien évident qu'il n'y a pas de grâce chrétienne. Parce que ça voudrait dire que les autres grâces ne sont pas grâces. C'est genre et différence spécifique. Alors ça, je crois, c'est l'erreur fondamentale. Il n'est pas entré dans ce que représente la connaissance analogique, la ratio et le mode.
Oui. Il y avait une autre question. Sachant que la grâce chrétienne est plus grande que celle de justice originelle, pourquoi ne peut-on pas dire que l'intention de Dieu créateur était limitée à la justice originelle ? Dieu ne veut-il pas ce qu'il y a de meilleur ?
Ça, je peux pas. Vous voyez, là, c'est un raisonnement qui est extrinsèque au raisonnement de la foi. Le raisonnement de la foi me met en dépendance de ce que Dieu a fait. Et non pas dire ce que Dieu pourrait faire. La théologie ne consiste pas à donner des leçons au Père, parce qu'il n'a pas été à l'école. théologie consiste à essayer, en mendiant, en pauvre, d'essayer de comprendre ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Le point de vue de la justice, première, la grâce de justice originelle. On sait la catastrophe. On sait que Dieu promet d'être sauveur. Comment est-il sauveur ? Par le Christ. Et c'est le Christ qui nous reprend dans notre misère. Et le Christ nous reprend dans notre misère en nous communiquant une grâce qui vient de lui. Alors, une grâce qui vient de lui, on l'appelle grâce chrétienne. Et on peut très bien ne pas l'appeler chrétienne, on peut dire tout simplement grâce qui vient de lui et qui est toujours une grâce. Je ne regarde pas ce que Dieu aurait pu faire autrement. C'est plus théologique. C'est la théologie, alors, des virtualités divines. Ce que Dieu aurait pu le faire. Le théologien n'est pas prophète. Le théologien regarde ce qui s'est fait par Dieu. Or, Dieu a voulu que son fils soit engendré par moi. Que son fils, le Verbe, prenne une nature humaine à partir de Marie, à partir de la maternité divine. Alors, est-ce que cette grâce qui nous est donnée à partir du Christ a-t-elle un mode différent que la grâce qui est donnée par la justice originelle ? Il faut bien voir le problème théologique. Et ce problème théologique, il existe, puisque nous sommes tous d'accord que la grâce nouvelle nous vient du Christ. Est-ce que le Christ a voulu tout simplement nous remettre dans la grâce originelle du paradis terrestre ? Ou a-t-il voulu nous mettre dans un état différent, plus parfait que s'il n'y avait pas eu de péché? Et c'est ça que le théologien doit chercher. Et c'est cela que nous appelons grâce chrétienne. Alors, c'est évident que la grâce chrétienne, ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui est la source première. Ça veut dire que Jésus est médiateur de la grâce. Si on voulait dire que le Christ est source première, on commettrait une faute. Parce que la grâce que Jésus nous donne est toujours une grâce qui nous vient de Dieu, le Père. Et je crois que c'est assez net dans l'évangile de Jean que le Christ est l'envoyé du Père et que le Fils, Jésus, ne vient pas pour ne pas faire la volonté du Père. Or, si le Christ ne nous donnait pas une grâce, alors, évidemment, il y aurait une de lutte, Christ nous donne sa grâce, la sienne. Cette grâce que lui a reçue du Père, il nous la donne. Oui, je crois que on ne peut pas dire autre chose. Montrer que, de fait, la grâce chrétienne n'existe pas, on peut seulement dire « Saint Thomas n'a pas employé cette formule ». Mais ce n'est pas parce que Saint Thomas n'a pas employé cette formule qu'il ne voit pas le mystère du chrétien. Et que le chrétien a été sanctifié d'une façon différente que Adam. Ça, je crois que saint Thomas le voit suffisamment bien. Et qui nous montre que notre sanctification se fait par le Christ, et que si la sanctification se fait par le Christ, notre grâce qui vient du Christ a un mode plus parfait que la grâce de justice originelle. Parce que par le Christ, elle est liée au mystère de l'union hypostatique. Tandis que vous l'avez dit. Je crois que c'est assez simple. Au fond, il y a une erreur grave. On s'arrête au mot. Or, la théologie ne s'arrête pas au mot. La théologie sait que tous les mots qu'on emploie en théologie sont déficients. Puisqu'ils proviennent d'une connaissance analogique. Ils sont déficients. Donc, on comprend très bien que cet homme n'a pas dit grâce chrétienne pour respecter la grandeur de la grâce, tout court. Dire grâce chrétienne, ça risquerait d'exalter le mode plus que la raison, que la ratio. Le mode chrétien risquerait de cacher la grandeur de la raison, de la ratio de la grâce. Et c'est pour ça que saint Thomas n'emploie pas le mot grâce chrétienne. Et donc, en réalité, ce n'est pas une thèse de théologie. En réalité, c'est une thèse qui montre que saint Thomas n'a pas employé le mot grâce chrétienne. Alors il faudrait ajouter, c'est très bien de faire cette étude-là, pourquoi n'a-t-il pas ajouté grâce chrétienne? Et quels sont les dangers d'employer grâce chrétienne? Et c'est pour ça qu'il ne l'a pas employé. Tant qu'on reste uniquement dire saint Thomas n'a pas employé grâce chrétienne, c'est négatif. Est-ce qu'il a compris que la grâce venait du Christ? Oui. Que toutes nos grâces venaient du Christ. Ça. Et donc, si toutes nos grâces viennent du Christ, elles ont un mode spécial. Elles viennent du Christ. Alors qu'on l'appelle grâce chrétienne, c'est normal. Qu'on l'appelle autrement,